Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Quatrième rencontre de la semaine. Alors un autre entretien au cœur du sujet. Il est question toujours de cette vocation mystérieuse de la femme et puis cette femme qui reste toujours un mystère pour l'homme, mais qui dit femme dit homme aussi à ses côtés. Alors dans votre ouvrage qui a 30 ans après, toujours autant de succès, puisque c'est une 16e édition que je tiens entre les mains. Page 102, vous abordez ce thème de l'amour et de la croix et vous écrivez, donc je me permets de reprendre un de vos passages. Tout d'abord, Agnès de Langeac qui disait « Amour, tu es fort, tu es beau, tu es puissant ». Un de nos problèmes majeurs, c'est que nous rêvons au lieu de vivre, au lieu de coller à la réalité, de l'accueillir les bras ouverts, de mettre nos pieds sur la terre pour nous élancer vers le ciel. Nous vivons dans le monde de nos idées, de nos utopies, et nous passons notre temps d'illusion en désillusion à ne rien comprendre de ce qui nous arrive. Et encore, on veut aimer, mais on ne veut pas souffrir. Il y a tant de belles choses que vous avez écrites il y a 30 ans, puisque ce livre se lit encore et se commande. Il y a vraiment une incompréhension. Expliquez-nous, allez plus loin, je crois, sans une incompréhension de ce mystère, qui est un mystère, le mystère de la croix.
Oui, c'est sûr. En fait, je dirais, les femmes, finalement, sont encore des petites filles qui rêvent au prince charmant et qui s'imaginent, qui rêvent aussi une vie facile, une vie idéale. Et finalement, c'est difficile de se trouver confronté à la réalité, parce que la réalité, ça n'est pas ça. Nous sommes dans un monde qui est marqué par le péché, par ce que Jean-Paul II a appelé le cataclysme ontologique. Et effectivement, dans la pensée de Dieu, cette relation de l'homme et de la femme était merveilleuse. Moi, j'aime beaucoup imaginer à la création ce moment où le Père, le Créateur, amène la femme à l'homme, et qui est un moment d'émerveillement, et en fait qui est un moment aussi de révélation. Adam, à ce moment-là, on l'avait jamais encore entendu parler, et c'est la vue de la femme qui libère la parole dans l'homme, et il pousse un cri d'émerveillement, parce qu'à la fois il se reconnaît et il la reconnaît comme vraiment sa semblable, la même chair cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, et en même temps il reconnaît sa différence, et ça c'est très très fort, c'est-à-dire il a la révélation de lui-même dans cet accueil. Alors nous portons tous la nostalgie, de cette création, nous portons la nostalgie du regard de Dieu posé sur nous, et nous portons la nostalgie, nous les femmes, du regard de l'homme posé sur nous, de cet émerveillement, d'avoir pu susciter un tel émerveillement chez l'homme. Et je dirais, l'homme aussi porte la nostalgie de la femme idéale, en fait. Je me souviens avoir été au Canada, j'avais justement présenté le livre de la femme dans une prison. Et j'étais frappée, enfin, c'était vraiment une expérience très très forte pour moi, et parce que c'était des gaillards, des récidivistes que je n'aurais pas aimé à rencontrer à la tombée de la nuit. Et je me suis dit non, je ne vais surtout pas leur parler de la femme, parce que... Et puis, avant que j'aie eu le temps de dire quoi que ce soit, la dame qui était là m'a présenté, elle a dit, ben voilà, Jo Croissant a écrit un livre, elle va vous parler de la femme. Et ce que je redoutais, ces produits sont tous mis à se trémousser, à se regarder avec des airs entendus. Et j'ai dit, en fait, j'ai écrit ce livre parce que je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de gens qui étaient libres. Que finalement... je dis, vous aussi, si vous êtes en prison, c'est que vous n'étiez pas libre, vous avez fait des actes qui vous dépassaient. Et à ce moment-là, ils ont commencé à hocher la tête et ils sont rentrés en eux-mêmes. C'était très, très impressionnant. Ils sont rentrés dans un silence. Ils m'ont écouté. J'ai pu parler du dessein de Dieu sur l'homme, sur la femme. Et là, il n'y avait plus du tout de gloussement. Et en fait, après, on a aussi partagé. Et en entrant en eux-mêmes, ils se sont souvenus de ce... ils avaient espéré de la relation de la femme. Et en fait, je leur ai dit, mais si vous êtes là, c'est aussi que vous avez été certainement blessé, déçu par une femme. Et tout le monde hochait la tête. Et ils avaient le souvenir, ils se sont souvenus de belles choses qu'ils avaient vécues. Donc, vous voyez, comme quoi, dans tout être, même le plus défiguré, si on peut dire, il y a ce désir, finalement, de cette rencontre de l'homme et de la femme et de l'homme. Et donc, cette nostalgie, eh bien, chacun de nous, nous la portons. L'homme a cette nostalgie de la femme idéale, et bien sûr, il est déçu quand il se trouve face à une petite fille qui pleure, et en général, il déteste les femmes qui pleurent. Mais voilà.
Alors, comment sortir un petit peu de l'illusion? Comment sortir de ce rêve? Au fond, comment grandir? Comment devenir femme? Comment devenir homme? Comment entrer dans une certaine étape que l'on peut nommer aussi une certaine maturité de l'être profond, de l'homme?
Oui. C'est-à-dire, la maturité, finalement, c'est d'entrer dans la réalité,
dans le mystère de l'incarnation.
Exactement. C'est-à-dire accueillir la réalité de notre vie telle qu'elle se présente
à
nous.
Arrêter de rêver.
Sortir
du rêve.
Sortir du rêve.
Très concrètement.
Tout à fait. Tout à fait. Comment dire? On a le droit d'avoir des idéaux, mais pas entrer dans l'idéologie. Et souvent, l'idéologie nous enlève notre liberté. Et donc, on doit avoir une haute idée de l'amour, de la relation conjugale, mais pas à la manière d'une idéologie, où ça doit être comme ça. Parce que ça nous empêche d'accueillir le réel tel qu'il est, et de l'assumer avec, je dirais, ses aspérités, avec sa douleur. Et je crois que quand on n'a plus peur de la souffrance, il faut guérir de la peur de la souffrance, ce qui est c'est difficile. Là aussi, c'est tout un chemin, parce qu'on a tous peur de souffrir.
C'est très humain. Ça peut se comprendre.
Et ça se comprend. Oui. On fait tout ce qu'on peut pour éviter de souffrir. Et d'une certaine manière, sinon, ça serait masochiste. C'est à la fois sain, mais ça nous empêche, je dirais, de traverser l'épreuve. Parce que la souffrance, elle a qu'un temps. Quand on accueille donc la réalité telle qu'elle est, on entre aussi dans une paix, on se pacifie. Et on permet aussi la résolution des situations. Alors que si on se crispe, elle s'envenime.
Vous avez écrit, c'est un livre toujours d'actualité, 30 ans après, hein, vous écrivez « On veut aimer, mais on ne veut pas souffrir. On veut l'amour, mais on ne veut pas la croix. Mais il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas la croix. » Vous l'avez vérifié, et vous le vérifiez aussi encore 30 ans après auprès de toutes ces femmes que vous avez rencontrées, qui vous ont écrit, appelées au téléphone.
Bien sûr, bien sûr. La croix, c'est un mystère en même temps. Hein. C'est un mystère, mais c'est incontournable.
Cette croix est incontournable dans l'amour d'un homme et d'une femme, sur ce chemin qui est un chemin qui appelle certainement un dépouillement aussi.
Un dépouillement, un dépassement, parce que je dirais entrer dans un abandon, dans un consentir à ce qui est, et aussi dans un détachement. Hein, c'est-à-dire, c'est un chemin, accepter d'être dépouillé, accepter de se détacher, non pas pour devenir froid, et au contraire, pour pouvoir être dépouillé de toutes ces fausses idées qu'on peut se faire, et pour accueillir l'amour pour accueillir l'autre tel qu'il est, avec ce qu'il peut nous donner, avec ce qu'il nous donne.
Donc accueillir peut-être l'autre au pied de la croix, hein, tout le symbole aussi de la croix de l'épreuve. Hein. Si on est dans l'incapacité d'accueillir l'autre au moment de l'épreuve, on est dans cette incapacité encore de pouvoir l'accueillir, lui pardonner et l'aimer. Cœur est rétréci.
Oui, si on se protège trop, alors on s'enferme. Et parfois, c'est terrible parce que chacun s'est enfermé. Des fois, les souffrances sont trop à vif et chacun s'enferme dans sa coquille.
Non, dans ses propres blessures.
C'est ça. Il y a vraiment une grande difficulté de communication à ce moment-là.
Donc, c'est un vrai travail. Vous parlez souvent de travail aussi. Oui. Vous parlez aussi de regard. Donc, travailler aussi sur le regard. Vous écrivez aussi « La croix est la plus grande preuve d'amour de Dieu pour l'humanité puisqu'il a été jusqu'à donner sa vie pour nous sauver de la mort et nous sauver du malheur. » Il est bienvenu pour venir nous sortir de nos états d'enfermement.
Oui, 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 tout à fait. Et là encore, je dirais, c'est la prière. Là encore, c'est cette descente dans ce lieu de silence intérieur où cette présence de Dieu absorbe toute la négativité de nos vies et nous permet d'être debout au pied de la croix. Hein, comme Marie qui a été debout au pied de la croix, elle voyait son fils mourir et être dans des conditions terribles. Hein, quand on voit des représentations de la crucifixion, c'est insupportable. Et comment pouvait-elle être debout au pied de la croix et garder quand même un regard d'espérance si elle n'était pas reliée profondément à cette présence de Dieu en elle?
Alors, il y aurait tant de choses encore à dire et tant de oui, clés au quotidien à transmettre à toutes ces femmes, à tous ces hommes que vous avez rencontrés, qui vous découvrent peut-être cette semaine dans cet ouvrage que je conseille. Hein, une belle écriture, une réflexion, une profondeur. On a le désir d'aller toujours plus loin et de faire la vérité. Et peut-être c'est aussi l'épreuve et le temps de la vérité pour arriver à cette maturité et accepter ce regard du père qui se pose sur son enfant. Jo Croissant, vous êtes l'invité cette semaine. Je vous propose de vous retrouver ici même, toujours à Lourdes, pas très loin de ce lieu de grâce, la grotte Massabielle, à la même heure. Et merci.
Merci Nathalie.